Bonjour, merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur l'internet par ce beau soleil d'été, enfin ici du moins. Tout à l'heure, Stéphane est en train de nous préparer. On va manger des rips. C'est bon ça, des rips, hein? Ouais, c'est bon. On va faire une lecture dans 2 Thessaloniciens 2, 1, s'il vous plaît, avec moi. Vous prenez vos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles, vous qui m'écoutez sur Internet, hein. Sauf si vous êtes en voiture, il ne faut pas prendre la Bible pendant que vous êtes en train de conduire. Mais autrement, il faut avoir une Bible chez soi, quand même, hein. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est donc 2 Thessaloniciens 2. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il y avait déjà des gens qui se laissaient ébranler dans leur bon sens. Il devait déjà y avoir des gens qui disaient que Jésus allait revenir ou qu'il était déjà revenu. Il y avait déjà des gens bizarres à l'époque, hein. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Alors, l'adversaire. On doit voir l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui retient la manifestation de l'Antichrist, eh bien, c'est la présence de l'épouse de Christ sur la terre, la véritable Église, pas l'Église en général, mais la véritable Église. Quand elle sera enlevée, alors l'Antichrist pourra se manifester d'une façon tout à fait claire. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Amen. C'est pas très réjouissant, hein, mais c'est comme ça, c'est des choses qui vont se passer, si les choses sont en train de se passer. Il y a des années que les vrais chrétiens, je parle des chrétiens nés de nouveau, qui sont conformes aux Écritures, ils savent ça, ils annoncent ça. Moi, depuis que je suis né de nouveau en 68, j'ai appris ça et j'ai commencé à le prêcher, à le dire. Nous sommes à la porte de la mondialisation, parce que cet Antichrist, cet homme providentiel, sera un tyran qui va régner sur le monde. Alors quand je prêchais ces choses dans les années 70, les incroyants se moquaient et la plupart des chrétiens disaient « Mais écoute Michel, c'est pas possible, bon c'est un texte, mais il faut l'interpréter, est-ce que tu crois vraiment ça? Tu crois vraiment que les gens aspirent, n'est-ce pas, à une domination du monde par un chef unique? C'est impensable, c'est impossible. Comment est-ce que les musulmans vont être d'accord de suivre l'Antichrist? Comment les bouddhistes vont être d'accord de suivre l'Antichrist? Comment? C'est pas possible, c'est stupide, c'est pas possible. » Ils me disaient, les chrétiens, ils me disaient, mais c'est une utopie qui va rester à l'état de rêve, ça n'arrivera jamais. Ah bon? Je me souviens de Henry Kissinger, je ne sais pas si vous vous rappelez, les plus vieux se rappellent de lui, et il faisait partie de cette élite mondialiste, et il disait « Tout sera différent ». C'est vrai que beaucoup de personnes en souffriront au début, il disait ça, hein, mais finalement ceux qui suivront l'idée de la mondialisation auront une vie meilleure. Il disait, à long terme, la vie va s'améliorer. Le monde que nous avons imaginé deviendra une réalité. Hier, j'étais dans mon bureau et je lisais une homélie du pape Paul VI datant du 17 juin 1965. J'étais pas encore converti à cette époque-là. Il disait, je lisais ça dans le livre, Le pape Paul VI, nous devons élaborer un État à l'échelle mondiale, une société nouvelle, idéale. Nous savons que l'humanité, dans sa diversité, s'engagera dans la construction de cet édifice impressionnant et que les progrès seront significatifs. Ils sont déjà dignes d'admiration et de soutien. Voilà ce que disait déjà Paul VI. Et puis maintenant, eh bien, ils font des grandes réunions œcuméniques avec le chef des bouddhistes, le chef des musulmans, le chef des juifs, le pape et tout ça. Ils sont en train de discuter, de faire des pactes, de préparer tout ça dans notre dos pendant qu'on nous amuse avec des petits problèmes. Avec Hanouna. De nos jours, nous entendons de plus en plus de personnes qui disent que le capitalisme, c'est une force négative et que la démocratie est tout aussi mauvaise que le capitalisme. Ils disent que la démocratie lutte contre les forces réactionnaires. C'est l'esprit militaire qui y mettra un terme. Voilà ce qui est dit, voilà ce qui est écrit dans les journaux. Je ne sais pas quelle sorte de journaux vous lisez. Mais moi, en ce moment, je me tiens beaucoup au courant de ce qui se passe en Afrique. Ce qui se passe en Afrique, ce sont des idées qui sont aussi en France, parce qu'on a quand même beaucoup d'Africains ici en France qui pensent comme ça. Et puis, on a aussi des Français qui pensent comme ça. Bref. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne le disent pas, mais ils veulent une dictature. Ils veulent une dictature. Ce qui va arriver, c'est que les gens qui vont perdre leurs racines vont errer de façon anarchique et ils devront être intégrés dans de nouvelles catégories et dans de nouvelles formes sociales et on est en train de les préparer à ça. Bon, il y a suffisamment d'injustice pour que les gens se révoltent. En fait, tout ça, c'est organisé. Alors que l'Esprit et l'épouse de Christ, la véritable Église, disent « Viens, Seigneur Jésus », on trouve ça, c'est un des derniers versets dans la Bible, dans Apocalypse 22, 17. Eux, ils disent, dans leur ignorance crasse, « Viens, Antichrist, règne sur nous ». Ils disent pas ça comme ça. Mais c'est ça que ça veut dire. Ils veulent pas de Christ, ils veulent de l'Antichrist. Mais ils vont l'avoir, hein. Ils vont l'avoir. Vous savez qu'il est déjà né? Et puis vous avez les francs-maçons qui enfoncent le clou. Voilà une de leurs déclarations, je vous lis. Tous les États doivent se soumettre aux lois d'un État mondialisé. Si la paix doit régner un jour dans ce monde, cela ne sera possible qu'avec l'unification de l'humanité, dans un seul gouvernement et une loi unique. Voilà. Vous pensez que c'est crédible? Eh bien, moi je vous dis que nous sommes en plein dans le processus en marche grand V, grande vitesse. Vers ça. Il manque plus que quelques menus détails pour que ça puisse être accepté. Savez-vous que la vision de l'idéal des planifications est gravée sur un mégalithe constitué de 6 blocs de granit qui se trouvent en Géorgie, aux États-Unis? Je l'ai mis en photo sur Révélation Bible, vous pouvez le voir, vous pouvez aller voir sur Internet. Ce mégalithe se trouve donc en Géorgie, aux États-Unis. Il a été érigé là en 1978. Ce monument affiche un message des principaux objectifs et il est en 8 langues. Il n'est pas en français. Hein. En anglais, en espagnol, en swahili, en hébreu, en arabe, en hindi, en chinois et en russe. Je vous donne la traduction française. Il y a 10 textes. 10, on peut dire, voilà, 10. Ce n'est pas les 10 commandements, c'est les 10 déclarations. 1. Maintient l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guide la reproduction intelligemment en améliorant la condition physique et la diversité. Unit l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Traite la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération. Protège les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Que les nations règlent leurs problèmes internes et les autres devant un tribunal mondial. Évite les lois et les fonctionnaires inutiles. Équilibre les droits individuels et les devoirs sociaux. Fais primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ne sois pas un cancer pour la terre, laisse une place à la nature. Comme ça a l'air gentil, quand on arrive vers la fin, l'amour, la foi, la beauté, la vérité... Qui va être contre cela, hein? Et un petit hic quand même, c'est maintenir la population à 500 millions de personnes. Or, nous sommes déjà 7 milliards. Comment et pourquoi vont-ils se débarrasser de 6 milliards 500 millions de personnes? Apocalypse 6-7 nous dit qu'à notre époque, ils vont déjà massacrer 1 milliard 500 millions de personnes. À notre époque. C'est une prophétie qui se trouve sous le 6e sceau d'Apocalypse, je vais y revenir tout à l'heure, et qui nous dit que 1 milliard 500 millions de personnes vont être massacrées par toutes sortes de, avec toutes sortes de moyens. Et puis ensuite, ils continueront leurs travaux de massacre après l'enlèvement d'église, parce que après le quatrième sceau, à la fin du quatrième sceau, l'église, la véritable église est enlevée. Il ne restera plus que les églises apostates, celles qui disent « Mais en dehors de nous, il n'y a pas de salut, on est les meilleurs. » Sous le cinquième sceau, sous le sixième sceau, ils massacreront encore tout le reste. En fait, d'après ce texte gravé dans la pierre, l'humanité est stigmatisée comme une tumeur cancéreuse. Ne sois pas un cancer. Ça veut dire que l'humanité, c'est une tumeur cancéreuse qu'on doit détruire et qu'on doit réduire à 500 millions d'individus pour que ça soit vivable, pour maintenir un équilibre dans la nature, de l'ordre. C'est pas compliqué, ils ont déjà commencé leur truc de destruction, et puis ils vont continuer. Ce qu'ils vont faire, d'abord, ils vont détruire les pauvres, et puis les malades. Ils vont stériliser les populations qui ont la fâcheuse tendance à avoir beaucoup d'enfants. Légaliser et faciliter l'euthanasie en masse. Maintenant, vous ne pouvez pas ouvrir Internet sans voir un bonhomme ou une bonne femme qui vous dit « Moi, j'ai choisi le jour et l'heure où je veux mourir dans la dignité, dans le respect. Je veux me suicider dans l'amour. » Les gens massacrent plein de bébés, mais ça, on n'en parle même pas parce que, voilà, on a pris l'habitude. Ils créeront aussi des épidémies, réduiront une partie de la population à l'esclavage, avec les progrès dans le domaine médical, pharmaceutique, et le peuple sera lobotomisé chimiquement. C'est pas compliqué, hein. Vous allez dans des asiles psychiatriques, vous les voyez, ils sont là, c'est un petit peu ça maintenant, hein. Vous lisez les commentaires sur Facebook, vous aperçoivez que, qu'est-ce qu'il y en a comme lobotomisé déjà. C'est effarant. Ça fait presque peur. Vous savez que c'était le projet d'Hitler? On pourra voir aussi d'immenses restrictions alimentaires. On nous dira qu'il n'y a plus. Alors on augmentera les prix. Ça, on le voit déjà. Hein. Le VIH a été un essai, et puis il y a eu le corona, mais tout ça c'était des répétitions, des aimables répétitions générales. Maintenant on va faire les choses à grande échelle. On va mettre au point un virus qui détruira réellement notre système d'immunodéfense. Ensuite, quand ils seront arrivés à n'avoir plus que 500 millions d'individus sur Terre, eh bien, il restera deux sortes de personnes. La race des maîtres, et puis les esclaves, si vous préférez les ouvriers. Les esclaves, cette sous-race, je parle d'ouvriers, hein, sera confinée dans des villes, coupée du monde, et ils seront hyper surveillés. On pourra penser comme ils voudront. On leur dira ce qu'ils doivent penser. Oh Michel, tu exagères. L'homme n'est pas si méchant. Ah bon? Savez-vous combien de personnes contrôlent les médias? 4 personnes dans le monde. 4 personnes. Ils ont les maisons de la presse, la télévision, l'internet, les films, tout ça. Mais voyons, Michel, ce sont des gens intelligents, ils sont sans doute raisonnables. Leur projet peut pas être si mauvais, c'est pas possible. Ah bon? Les 4 personnes qui contrôlent tout vous disent que la presse est libre. Oui, elle est libre. La liberté de la presse, c'est la liberté d'environ 200 personnes de répandre leurs opinions contrôlées par 4 personnes. Voilà ce que c'est la liberté de la presse. Le 6 juin 1991, David Rockefeller a déclaré à l'ouverture de la conférence de Bilderberg, vous savez, cette grande conférence qui réunit les élites. Il a déclaré, donc en 91, « Nous remercions le Washington Post, le New Time, le magazine Time et d'autres grands médias dont les directeurs sont tous ici, d'avoir tenu leur promesse pendant 40 ans et d'avoir gardé le silence. Il ne nous aurait pas été possible de mettre en pratique le projet que nous avons pour le monde » si tout avait été fait sous les projecteurs de l'opinion publique. Or, le monde est aujourd'hui plus apte à accepter le concept d'un gouvernement mondial qui ne connaîtra plus jamais de guerre et qui vivra dans la prospérité. Oui, parce que les guerres, c'est eux qui les organisent. Hein, ils vont pas se battre. Ils envoient les peuples se battre. Il leur donne de quoi se révolter. Et puis un jour, on leur dira, ben, on a trouvé le moyen d'avoir la paix. Alors, c'est qui ne voudra pas la paix? Et puis, il continue en disant, Nous devons absolument favoriser la souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et des banques, et non l'autodétermination nationaliste qui a prévalu au cours des siècles derniers. Quand on vous dit que c'est pas la France qui dirige la France, mais que c'est à Bruxelles ça se passe, ou c'est même pas à Bruxelles ça se passe, mais pour vos enfants. Que c'est beau. Une élite intellectuelle associée aux banques qui va gouverner le monde. Mes frères et sœurs, c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Est-ce que vous n'avez pas déjà l'impression que votre argent qui est à la banque n'est pas à vous? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de retirer plus de temps par semaine? C'est à vous pourtant. Ben non, vous n'avez pas le droit. Bref, mes frères et sœurs, ça fait combien de temps que je vous dis que nous sommes dans la prophétie du quatrième sceau d'Apocalypse 6? J'ai prêché ça partout, partout. Qui m'a cru? Les gens disaient « Amen, Amen, Alléluia, Amen ». Il y en a même un en Afrique, pour ne pas le nommer, c'est Itiel Dossou qui nous a dit « Mais arrête avec tes histoires, nous ce qu'on veut c'est des miracles ». Leurs journaux en Afrique disent « Sans l'Afrique, la France est ruinée ». Ah bon? Mais je vous rappelle que la France a colonisé l'Afrique en 1850, mais qu'elle était déjà riche avant. Elle n'a pas eu besoin d'aller piller l'Afrique pour s'enrichir. Alors qu'ils vivaient et qu'ils vivent encore dans des baraquements de tôle, la France était déjà prospère et bâtissait des cathédrales. J'ai fait visiter des cathédrales à des amis africains, des cathédrales françaises qui ont 800 ans et qui tiennent debout. Encore aujourd'hui. Bon, il est vrai que certains ont pillé, depuis la colonisation de l'Afrique, ils ont pillé l'Afrique, ils les ont roulés dans la farine, c'était tellement facile. Mais les mêmes qui pillent l'Afrique, c'est les mêmes qui nous pillent nous. C'est les mêmes. Mais ce que nous avons gardé, c'est la parole de Dieu, et ça, ils ne peuvent pas nous l'enlever. La Russie a en ce moment en Afrique. C'est la Russie. Ah, la Russie va nous sauver. C'est merveilleux, poil aux yeux. La Russie a enfermé les chrétiens, les pays communistes aussi. Qui se souvient du pasteur Wrom Brandt, Richard Wrom Brandt? Moi, je l'ai connu à Lausanne. C'était un pasteur luthérien qui a été emprisonné 14 ans en Roumanie pour sa foi, parce qu'il était luthérien et sa foi n'était pas conforme à l'église officielle orthodoxe, c'est pas des pays communistes. Je l'ai rencontré à Lausanne, il a prêché à la cathédrale de Lausanne, j'ai fait sa connaissance, et puis j'ai rencontré un de ses traducteurs qui est décédé maintenant, monsieur de Mestral de Vevey. Lisez son livre, vous pouvez le retrouver, hein. Ça s'appelle « Mes prisons avec Dieu ». C'est édité par Casterman en 66 et 68. Voici un extrait. Voilà ce que Wrom Brandt disait. Le christianisme en Occident, donc chez nous, de par la liberté de culte et le confort matériel dont ils jouissent, a exclu l'expérience de la souffrance comme moyen divin de croissance à la fois individuelle et collective. La profondeur du vide intérieur, l'adversité des puissances démoniaques opposées à l'évangile de Jésus-Christ et animant les idéologies humaines qui contrôlent les terres des martyrs Russie, Corée du Nord, Chine, Laos, pays islamiques, etc., sont étrangères à l'expérience des chrétiens normaux de l'Occident. Or, les saints les plus consacrés dans toute l'histoire de l'Église ont connu les épreuves les plus atroces et les privations les plus pénibles. Le sang précieux de ces hommes et de ces femmes persécutés pour leur foi parle mieux que celui d'Abel. Il nous transmet la transpiration de leur âme et nous communique les larmes qu'ils ont versées. Et quand moi j'étais d'écouter, les bons protestants étaient là, ils regardaient, ils disaient « Ah oui, oh, c'est terrible, oui, au revoir frère, Dieu vous bénisse, oui. » Faites attention, soyez prudents. Nous sommes dans la prophétie écrite sous le quatrième sceau de l'Apocalypse. C'est une époque terrible. Seuls ceux qui seront fidèles à la parole de Dieu et à la véritable Église, telle que Jésus la veut, seront enlevés. Alors je vais vous faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est, ce fameux quatrième sceau, parce que j'en parle, mais peut-être vous avez oublié. Vous savez que il y a sept sceaux qui doivent être ouverts. Lors de l'ouverture des quatre premiers sceaux, il y a des êtres vivants qui se présentent. Il y a un lion, un veau, un homme et un aigle. Dans le premier sceau, c'est un lion, parce que ça représente l'Église primitive qui était sous l'influence du lion de Judas, c'est-à-dire de Jésus. Le deuxième, c'était un veau, c'est-à-dire un animal domestique. C'était la persécution des premiers chrétiens. Le troisième, c'était l'âge où Luther est apparu, l'intelligence de l'homme au secours des choses de la foi. Et puis, le quatrième âge, c'est notre temps, l'aigle, c'est-à-dire l'esprit prophétique. L'aigle vole haut et voit de loin, et c'est l'aigle qui est donc l'animal qui règne en ce moment. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a les chevaux, qui sont des chevaux sataniques, dans les quatre premiers sceaux. Après, il n'y a plus. Cinquième sceau, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus d'êtres vivants, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que l'Église a été enlevée, c'est terminé, le monde est livré à l'Antichrist, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais pour ce qui nous concerne, nous qui croyons que nous sommes arrivés à la fin, vous croyez qu'on est arrivé à la fin, j'espère qu'on le marque. Voilà ce que je lis. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant, c'était l'aigle, qui dit, viens, il dit à Jean, viens. Alors Jean va vers lui, il regarde, et voici apparu un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Par l'épée, la bombe atomique, parce que ça n'existait pas encore. Par la famine, la mortalité, le suicide, ces choses-là, les bêtes sauvages, etc. Le quart des hommes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 1 milliard et quelques millions de personnes. Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de ce monde que le séjour des morts s'ouvre et que la mort et le séjour des morts se baladent sur terre. Les morts se baladent sur terre. Avant, on avait affaire simplement aux démons, maintenant on a affaire aux morts. Ce n'est pas forcément des gentils morts, hein. Et le pouvoir leur a été donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Vous voyez, ce n'est pas des gentils morts. Mais qui leur donne ce pouvoir? C'est Dieu qui leur donne ce pouvoir. Nous sommes avertis. On est avertis. Alors maintenant, ce texte-là il est en relation avec ce qu'on appelle le septième âge de l'Église, qu'on trouve dans Apocalypse 3 et versets 14 à 19. Vous avez sept âge de l'Église. L'Église a eu une histoire qui s'est divisée en sept périodes. Et Jean a dû écrire à des anges de chacune de ces périodes. Ange, ça veut dire envoyé. Quand il dit là, par exemple, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, ça ne veut pas dire qu'il y avait un ange à Laodicée à qui l'apôtre Jean devait écrire. Il y avait un envoyé, celui qui était le responsable de l'église de Laodicée. Mais cette église, ce texte, est un texte prophétique qui concerne le dernier âge de l'histoire de l'église, de la véritable église sur la terre. Voilà l'état de l'église telle qu'elle est, telle que Jésus la voit, l'église d'aujourd'hui. Voici ce que dit l'Amen, c'est-à-dire Jésus, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Voilà ce qu'il dit, voilà ce que Jésus dit au sujet de l'Église d'aujourd'hui. Je connais tes œuvres. Ah oui, ça. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu va vomir cette église de sa bouche, tellement que ça le dégoûte. Tellement qu'elle est devenue répugnante. Jésus continue en disant, parce que tu dis, parce que l'église dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alors, vous allez vers un protestant, vous lui parlez du baptême par immersion, il dit non, c'est pas comme ça, non, on sait, c'est pas, trois gouttes d'eau, ça suffit. C'est... Vous allez vers un baptiste, vous lui dites, vous savez, le baptême dans le Saint-Esprit et le don des langues, non, ça, c'est... non, on sait, c'est, pas, c'est fini, ça, c'est terminé. Ils savent, ils connaissent tout, ils savent, tout le monde, ils savent tout. Hein, ils savent. Je me suis enrichi, j'ai pas besoin de ça. T'en parles en langue, garde-le, je veux pas. Non, c'est doctrine, on n'en veut pas. Non, c'est nous qui avons raison. Dans toutes les religions, hein, c'est comme ça. Et il continue, Jésus dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Moi, je suis allé pendant 23 ans en Afrique, et c'est chaque fois, hein, on est en voiture, on se promène dans la ville, on va d'une église à une autre, et qu'est-ce qu'on voit? Un bonhomme tout nu qui se promène. C'est jamais le même, hein, il y en a plein. Des bonnes femmes toutes nues qui sont là, qui se promènent. Et la première fois, j'ai dit à Nicolas, mais c'est qui, c'est quoi ça? C'est des fous! Et ben voilà, Jésus est en train de dire, tu es nu et tu ne le sais pas. Ding, ding, ding. L'Église est devenue folle. On va dire, mais Michel, qu'est-ce que tu dis? La Bible ne nous parle-t-elle pas des vierges folles? Tu ne sais même pas que tu es nu, que tu as la honte de ta nudité. Tout le monde se fout de l'Église, ils ont raison. C'est quelque chose de profondément méprisable. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ils voient rien. Ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Et Jésus dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Jésus dit à l'Église, repens-toi. Ensuite, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai dans son église, puis je prendrai son hostie, puis je me prosternerai devant la Vierge Marie. Non. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire que Jésus se tient à la porte de l'église, Jésus était foutu dehors de l'église par les scandales, par les horreurs, par les trucs financiers, par les guerres organisées, par tout ça. Et Jésus était mis dehors, il frappe à la porte et si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte et il sort. Jésus veut sortir, Jésus veut aller chez toi manger à ta table. Et ensuite il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que si tu n'as pas des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit a à te dire ce matin, eh ben tu vas arrêter cette prédication et puis tu vas continuer ta vie comme d'habitude en disant, ah, c'est quand même dur la vie sans confiture. Jésus parle de la même prophétie, on trouve ça dans Matthieu 24, 9, 14. Matthieu 24, 9, 14. Voilà ce que Jésus dit. Il parle de notre époque, hein. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est pas arrivé ça? Combien de juifs sont morts pendant notre époque? Pas seulement les juifs, mais les chrétiens. Savez-vous que les chrétiens sont, c'est le peuple le plus persécuté du monde? On vous haïra à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, c'est-à-dire que ça sera trop dur, alors ils trahiront. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Ils se dénonceront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ah bon, où est-ce qu'ils sont? Vous voulez que je vous donne des noms? Plusieurs prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'injustice, l'illégalité, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il suffit pas de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Ce qu'il faut, c'est persévérer dans la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, en sachant dans quelle époque on vit et en adaptant notre vie à l'époque où on vit, en faisant ce que Jésus dit de faire à notre époque. Et il continue en disant, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et c'est ce qui se passe. Pas pour que les gens soient sauvés, non. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est-à-dire que ce que Jésus veut, c'est que les gens sachent la vérité. Il y en a qui entendront, qui seront sauvés, il y en a qui entendront et qui ne comprendront rien du tout, mais tout le monde entendra, ça servira de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et vous savez pourquoi, comment on fait pour aller prêcher dans le monde entier? Internet. Vous savez où est-ce que je suis le plus écouté? Au Congo. En France aussi, un peu partout, hein, mais c'est au Congo. Bonjour les Congolais. C'est incroyable, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Par contre, ils connaissent ma voix, ils m'entendent prêcher, ils me suivent régulièrement. L'évangile sera prêché dans toutes les nations. Avec Internet, les gens ont... Je reçois presque chaque semaine des insultes. On en a marre. Internet, c'est devenu comme une église où on parle de Jésus sans arrêt. C'est vrai. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Il y en a qui en parlent bizarrement. Là, il y a ce matin, j'ai vu une bonne femme, une grosse noire, maquillée comme... Même les prostituées se maquillent plus comme ça. Elle disait, « Vous savez, sœur, si vous retombez tout le temps dans vos péchés, c'est parce que le diable, il sait très bien que Dieu veut faire quelque chose de très grand avec vous. Alors c'est pourquoi il vous attaque. » Espèce de menteuse. Pourquoi est-ce qu'elle retombe toujours dans son péché? Parce qu'elle fréquente des cochons. parce qu'elle va dans des endroits pourris, voilà pourquoi elle tombe tout le temps dans son péché. C'est pas parce que Dieu a un grand plan pour elle. C'est parce que c'est une cochonne, voilà pourquoi elle retombe tout le temps dans ses péchés. Repends-toi, voilà ce que cette grosse bonne femme maquillée, comme nos prostituées ne se maquillent même plus, leur raconte. Alors vous avez l'évangile qui est prêché, mais vous avez aussi un faux évangile, un évangile à la noix de coco qui vaut pas 2 balles de cajot. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. On est sous le 4e sceau, on doit faire attention, on est dans l'âge de Laodicée, où les gens sont ni froids, ni tièdes, ils sont ni froids, ni bouillants, ils sont tièdes, c'est tiédasse, c'est une religion, c'est collant, c'est pesant, comme on dit dans le canton du Valais, c'est répugnant, il faut dire la vérité, je vous ai dit la vérité aujourd'hui, faites-en ce que vous voulez, mais faites quelque chose, repentez-vous, changez de vie, que Dieu vous bénisse, Amen, au revoir. Au revoir.